Bonjour frères et sœurs en Christ. Voilà, avant d'écouter la parole de Dieu, prions ensemble. Seigneur, nous voulons t'inviter, te présenter avec nous cet après-midi, cette instance. Purifions-nous pour que nous puissions avoir un cœur qui est disposé pour écouter ta parole. Et que Saint-Esprit soit avec nous tous et pour nous aider de comprendre ta parole. Nous remettons ce temps entier à toi. Je prie en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous arrivons presque terminé le livre de Jacques. En lisant le livre de Jacques, nous voyons que l'auteur met l'accent sur des actions de la foi à partir de l'expérience de la vie. De la vie de l'auteur, s'il n'y a pas de bonne pratique de la foi dans la vie, il n'y a pas de véritable témoignage de notre religion. Il explique que la foi et le comportement vont ensemble. Cependant, il explique que quelle est la foi, ni ce que l'on appelle l'action. Il énonce simplement un concept. La foi doit se manifester par de l'action. Par conséquent, dès le premier chapitre, il a mentionné la vraie foi. Il est nécessaire de passer par l'épreuve pour savoir si elle est authentique. Dans le deuxième chapitre, l'auteur explique ensuite que si une personne a vraiment la foi, elle commencera par aimer ses frères et ses sœurs. L'auteur a même cité l'exemple d'Abraham pour expliquer pourquoi on appelait un homme de foi. C'est parce qu'Abraham a répondu à l'appel de Dieu par une action concrète. Dans le troisième chapitre, l'auteur nous dit que dans tous les comportements qui démontrent notre foi au cours de notre vie, il exprime que notre principale nécessité pour agir concrètement et témoigner est de commencer par contrôler sa propre langue. De l'avis de l'auteur, la langue peut prononcer beaucoup de mots qui peuvent être très agréables, mais la vraie foi ne s'exprime par la langue. Au contraire, si on ne contrôle pas notre langue, cela peut nous amener à chuter sur le plan spirituel. Jacques explique également quelle est la différence entre la sagesse qui appartient au ciel et la sagesse qui appartient à la terre. En fait, l'auteur déclare, si une personne à la vraie foi, elle saura qu'il ne faut pas mentir, car la langue est étroitement liée à la tromperie. Une personne avec un cœur sincère construira un cadre de vie paisible avec de la bonté. Et ne naissera pas la langue prononcer quelque chose d'inapproprié qui provoque la haine. Dans le quatrième chapitre, l'auteur mentionne spécifiquement que les chrétiens vivent dans ce monde et qu'ils doivent toujours rester prudents quant à leurs paroles et à leurs actes, car cela leur promettra de vivre réellement leur foi chrétienne. Fondamentalement, chacun a sa propre religion, mais la façon dont il l'exprime est différente. Nous pouvons comprendre ceci, notre comportement dans la société est le meilleur moyen de montrer notre foi. Par conséquent, l'auteur demande aux chrétiens de faire attention à leur comportement au sein de la société et de ne pas être entraîné par nos sentiments charnels. Ensuite, il espère que chaque chrétien saura être prudent et non pas orgueilleux, car il faut non pas centrer notre vie sur nous-mêmes, mais sur Dieu. Si une personne ne connaît pas l'humilité et connaît la finitude et la faiblesse d'un homme, une telle personne peut facilement tomber dans le péché sans le savoir. Il est important de noter que l'auteur mentionne dans la dernière section du chapitre 4 que si une personne sait qu'il y a quelque chose de bien à faire, mais ne le fait pas, c'est comme un péché. Quelque chose que Dieu n'aime pas. Si Dieu vous demande de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, vous n'avez pas besoin de trouver une excuse, car Dieu connaît la capacité de chacun et il ne demande pas aux gens de faire des choses qui vont au-delà de leur capacité. Par conséquent, si Dieu nous ordonne quelque chose, cela signifie que c'est notre responsabilité et une obligation. Ensuite, dans le chapitre 5, versets 1 à 6, l'auteur poursuit son exposé sur les problèmes de comportement mentionnés au chapitre 4. Il évoque la nécessité de faire particulièrement attention quand un chrétien est riche, car l'argent ne dure pas éternellement. Personne dans ce monde ne peut être assuré de posséder la richesse pour toujours, parce que la richesse est aussi une bénédiction de Dieu. Quand une personne oublie Dieu, Dieu le prive de ses richesses. Ensuite, dans le passage que nous étudions cet après-midi, l'auteur recommande aux croyants d'utiliser la prière pour montrer leur confiance absolue en Dieu. En rentrant dans ce sujet, je dois poser les quatre questions suivantes. Qu'est-ce que l'Église? Que fait l'Église? Quel objectif l'Église a-t-elle atteindre? Qui va le réaliser? Je demande à toutes les questions ci-dessus nous aident à réfléchir, car nous pouvons trouver la réponse dans ce passage. Dans ce passage, quelle image l'auteur nous montre-t-il? Y a-t-il beaucoup de chrétiens dans cette image? Quels font-ils? Ils ont prié parce qu'ils ont de nombreux besoins. Lorsque les chrétiens se sont réunis, ils ont prié pour différentes choses. Aujourd'hui, l'Église réunit de nombreux chrétiens. C'est comme si nous assistons à une réunion de prière. Quelles sont les personnes qui assistent à cette réunion de prière? Ce sont les chrétiens. Les chrétiens qui souffrent. Les chrétiens reconnaissance. Les chrétiens malades. Les chrétiens qui ont péché. Les chrétiens qui prient les uns pour les autres afin d'être guéris. Les chrétiens qui se sont égarés loin de la vérité. Nous voyons que dans l'Église, il y a des chrétiens qui ont des besoins différents. Ils ont besoin d'avoir la foi en mettant leur foi en action. Ils offrent leur prière à Dieu. Par conséquent, l'Église est comme une famille spirituel. Chaque chrétien de l'Église a des expériences différentes à différents stades de la vie. Le plus important est de prier. La famille en Christ, je voulais partager en 5 points. Un lieu de prière pour la souffrance et pour la reconnaissance. Un lieu de prière pour les membres malades physiquement. Un lieu de prière pour guérir les maladies spirituelles, c'est-à-dire le péché. Un lieu de prière pour apprendre la foi en Jésus-Christ. Un lieu de prière pour sauver les âmes. Premier point. Tout d'abord, parlons aussi du mot joie. Dans ce verset 13, la joie a plus le sens de plein de courage. Euthyméo. Il a été utilisé 2 fois dans le Nouveau Testament, surtout dans l'acte 24-10 et 27-25. Ce sont les seuls exemples dans ce mot dans le Nouveau Testament. Son sens est donc joie, courage, confiance, une assurance produite par la sécurité spirituelle que nous vivons avec le Seigneur. Cette joie ne dépend pas des émotions ni des circonstances de la vie. La joie dans ce verset a donc un sens plus large qu'une joie émotionnelle. La joie est le résultat de la confiance, l'assurance résultant de la sécurité spirituelle que nous vivons avec le Seigneur. Et ce qui concerne la souffrance, il s'agit d'une détresse qui peut provenir d'une source externe ou d'une attaque du diable. Le terme grec traduit par souffrance affligé, kakopatel, ce qui signifie souffrir ou supporter les épreuves, les difficultés. Il est placé en contraste avec joyeuse. Le circonstance de ce mot est endurer les difficultés, qui est plus approprié ici et qui s'inscrit dans la durée. Le verset 13 nous exhorte à prier en toute circonstance, soit pour demander l'aide du Seigneur, soit pour exprimer notre reconnaissance dans la louange. Jacques nous rappelle simplement, avec d'autres mots, le même principe que celui de Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 16 au 18. Soyez toujours joyeuses, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons prier que nous sommes dans la souffrance, parce que Dieu aime voir comment ses enfants font confiance à sa puissance quand ils souffrent. Quand on est reconnaissant, on va chanter les cantiques de louange, car Dieu aime voir que nous apprécions la grâce de Dieu. Que ce soit la souffrance ou la joie, Dieu ne veut pas que nous souffrions seuls ou que nous soyons seuls. Et il est disposé à partager avec nous nos souffrances et notre joie. Par conséquent, lorsque nous souffrons, nous devions dire à nos frères et sœurs nos souffrances. Dieu ne nous promet pas de nous donner une réponse tout de suite, mais il promet d'être avec nous. Nous partageons tous ensemble les merveilles qui viennent de Dieu. Par exemple, trouver un bon travail, donner naissance à une telle enfant et avoir la paix dans la vie. Ce sont des choses dont nous sommes reconnaissants à Dieu. C'est ainsi que tous les membres de l'Église s'encouragent et grandissent avec confiance. La parole de Dieu nous montre que dans un groupe de chrétiens, tous ne souffrent pas toujours et tous ne sont pas forcément dans une bonne situation. Ce n'est pas à cause de l'injustice de Dieu, puisque Dieu est juste. Mais c'est comme ça que nous apprenons à nous aimer les uns des autres. De plus, puisque nous avons vu que dans un groupe de personnes, il y a aussi ceux qui souffrent et ceux qui sont dans la joie. Nous devons réaliser que dans le cours de la vie individuelle, il doit y avoir différentes circonstances, sources de souffrance ou de joie. Mais que ce soit la souffrance ou la joie, c'est temporaire. Dieu a des objectifs différent pour chaque chrétien dans des vies différentes, à des moments différents. Les objectifs sont différents et l'objectif de Dieu est toujours de répandre sur ses enfants ses bénédictions. La famille en Jésus-Christ, c'est un lieu de prière pour les membres malades physiques. J'ai pas tapé. Ouais. Deuxième. Être malade est une chose inévitable dans la vie. Tout le monde va tomber malade. Explique Jacques, la maladie n'est pas seulement un problème personnel. C'est un problème qui concerne l'ensemble des membres de l'Église. Nous voyons que dans l'Église, Dieu a préparé différents frères et sœurs pour nous aider, surtout les anciens qui prient pour nous. Les anciens de l'Église n'ont pas nécessairement le don de guérir, car ils ont une fonction spirituelle. On peut en déduire que les anciens sont ici invités à prier pour les malades. Ce qui était différent à l'époque des apôtres. Les apôtres ont reçu une puissance du Seigneur, car ils ont non seulement le don de guérison, mais ils savent aussi comment l'utiliser. Les traitements médicaux, donc, il est question ici, ne reposent pas sur les dons, mais sur la prière, la foi et la confession. La guérison dépend de la volonté de Dieu. En ce qui concerne chaque personne, actuellement, l'Église exerce ce don en lien avec la prière, la foi et la confession. L'Église primitive était une Église où on pratiquait la guérison inspirée des écrits de l'Ancien Testament. Lorsqu'un juif est malade, il ne se rend pas d'abord chez le médecin, mais d'abord chez le sacrificateur, qui le nettoie avec de l'huile et prie pour lui. Le scientifique grec Claudius Galénus pense que l'huile est le meilleur remède et qu'il a des effets curatifs. Au deuxième ou troisième siècle après le Seigneur, un livre décrivant le fonctionnement de l'Église précise qu'il devait y avoir des anciens ayant le don de guérison. Les anciens sont spirituellement mûrs et ont donc accès au don de guérison. Car ils connaissent la volonté de Dieu, distinguent les choses et y prient par la foi. Il faut s'assurer que ce don vient véritablement de Dieu. Quelqu'un a-t-il vraiment ce don? Prier pour les malades est un service très important dans l'Église, qui pratique l'onction d'huile pour guérir la maladie depuis plusieurs siècles. Aujourd'hui, l'Église continuera à prier pour les malades, mais pas nécessairement en utilisant l'huile, mais par le moyen du pasteur ou d'un ancien de l'Église. Troisième point, la famille en Jésus-Christ, c'est un lieu de prière pour guérir la maladie spirituelle. En outre, Jacques a également souligné que certaines personnes qui commettent certains péchés peuvent en guérir si elles se confessent. Dans ce passage, on voit à nouveau que la cause de la maladie est souvent due au péché. Selon la Bible, il y a trois raisons à la maladie. Premièrement, l'épreuve de Dieu, l'attaque du diable, votre propre péché, y compris ne pas faire attention à votre santé. Si vous êtes coupable d'un péché, c'est Dieu qui intervient. Si on confesse notre péché à Dieu, on sera guéri. Ici, si pêche et il est, si les pardonné, ne signifie pas que notre intercession a pour effet de pardonner le péché, mais plutôt qu'en raison du résultat de notre prière. Nous pouvons nous repentir et être pardonnés. John McAdoo, selon l'usage de l'analyse de certains des mots de ces deux versets, pense que ces versets 14 et 15 ne traitent pas de la guérison du corps du patient, mais de sa faiblesse spirituelle. La guérison du corps est liée à la récupération spirituelle. Ici, Jacques associe la confession, la prière et la guérison. Il a clairement déclaré qu'il existe une relation très importante entre le corps et l'âme. L'homme est un individu, trois en un, esprit, âme et corps. Si une partie est affectée, toute la personne sera affectée. La médecine reconnaît qu'il existe une relation entre le corps et l'esprit et elle s'efforce d'identifier les problèmes personnes à l'origine des problèmes physiques. Cependant, la médecine moderne n'a pas le remède contre le mal. Ce n'est que par le sang de Christ et en confessant à Dieu vos péchés que vous pouvez être libérés des péchés qui vous accusent, qui vous suit et qui vous entraîne la punition liée à la désobéissance. Même si nous refusons de l'admettre, la maladie est souvent causée par le péché. Avidité, anxiété, colère, refus de pardonner, indulgence, jalousie, égoïsme, orgueil. Le péché mène souvent à la maladie et parfois même à la mort. Une fois que nous trouvons qu'il y a du péché dans nos vies, nous devons immédiatement le reconnaître et quitter le péché. Nous devions confesser tout péché commis à Dieu. De plus, si vous offensez les autres, vous devez également le leur avouer. Ceci est vital pour notre santé spirituelle et c'est également bon pour notre santé. L'apôtre avait une préoccupation toute particulièrement pour la santé spirituelle. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Nous entendons beaucoup parler de la santé physique, de bien-être, de l'épanouissement personnel, d'accompagnement, etc. dans le Seigneur. Entendons-nous encore parler de la santé spirituelle et de la restauration spirituelle? Aujourd'hui, ce thème est réservé aux spécialistes de la question pour garantir la guérison. Fais ceci bien, fais ceci, cela, fais du bien. Ou au moins une amélioration de votre santé spirituelle. Il faut des conditions spéciales. Retraite, séminaire, formation, un environnement propice, etc. Pourtant, clairement, dans l'Église que Jacques recommande de régler ses problèmes, prière d'anciens, prière des frères et des sœurs pour le malade, etc. Notre santé spirituelle est extrêmement importante car ses conséquences pour nous sont éternelles. C'est notre santé spirituelle qui influence directement notre capacité à rechercher la gloire de Dieu. C'est parce que nous avons une bonne santé spirituelle que nous voyons ce qui n'est pas visible. C'est parce que nous avons une bonne santé spirituelle que nous nous détachons des préoccupations passagères. C'est parce que nous avons une bonne santé spirituelle que nous glorifions Dieu au milieu de la maladie, de la guérison. Au verset 16, avouez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéri. Priez les uns les autres afin d'être guéri. Quelle bonne nouvelle! Est-ce que nous avons ce foi? L'Église n'est pas un tribunal. L'Église n'est pas un tribunal. L'Église n'est pas un tribunal. Chacun peut se confesser et demander pardon si il a commis un péché envers quelqu'un. Ce qui permet aux membres de se confesser à tour de rôle et de se réconcilier. En outre, au verset 16, l'Église doit également devenir un lieu où chacun peut se confesser et intercéder pour les autres. Sans être passé par la confession, il n'y a pas de réelle reconnaissance ni de vraie louange, selon le verset qu'on a cité, le moment de reconnaissance. Peut-être devez-vous demander, cela ne me suffit-il pas de confesser mes péchés devant Dieu? Pourquoi se donner la peine de se confesser les uns aux autres? C'est pour ça que Théatrice, bon au feu, a expliqué. Dieu a préparé un frère pour m'aider, il m'a écouté et a écouté ma confession. Dieu a préparé un frère pour m'aider, il m'a écouté et a écouté ma confession. Il m'a écouté et a écouté ma confession. Pas seulement écouté, a écouté ma confession surtout. Je précise. Tout comme Christ. En écoutant ma confession, il proclame le nom de Jésus pour que nous soyons pardonnés. Oui, confesser le péché à Dieu dans le secret peut ne pas me mettre dans l'embarras, mais cette confession n'est pas complète. C'est seulement en plaidant coupable devant un frère que je peux me tenir devant le trône du Seigneur. Et cela est complet. Frères et sœurs, pour notre famille, pour notre propre repos physique et spirituel, confessons-nous les uns aux autres et intercédons les uns avec les autres. Mais souvenez-vous que confesser un péché ne signifie pas que je vous connais bien et que nous entretenons de bonnes relations. Nous plaidons tous de coupables et nous intercédons quelle que soit notre relation. Se confesser, c'est d'abord confesser à Dieu et ensuite confesser au pasteur, ancien ou diacre de l'Église. Ils sont des représentants de l'Église de Dieu. Et ensuite se confesser aux frères et sœurs que vous avez offensés. Selon la gravité de la situation, afin que nous puissions nous réconcilier en Dieu. Quatrième point, un lieu de prière pour apprendre la foi en Jésus-Christ. Au verset 17-18, l'auteur cite à titre l'exemple de le prophète Élie. Cette histoire racontée dans les chapitres 17 à 19 du premier livre des Rois. L'auteur déclare que le prophète Élie est semblable à nous, c'est-à-dire une personne ordinaire. Ce n'est pas une personne dotée de capacités spéciales, mais il entretient de très bonnes relations avec Dieu. Il prie, donc Dieu ne fasse pas blâmer. Dieu a écouté sa prière. Lorsqu'il a commencé à prier pour que Dieu fasse pleuvoir. Dieu a également écouté ses prières. L'auteur utilise le prophète Élie comme exemple. Le plus important est d'expliquer que Dieu écoutera les gens. Si vous adorez Dieu avec un cœur sincère, il écoutera les prières des gens. Et ceux qui adorent vraiment Dieu doivent en témoigner dans leur vie quotidienne. Il y a deux étapes dans cette histoire. D'abord, Dieu ne demande pas à Élie de prière pour que la pluie cesse. Une initiative personnelle qui a provoqué un doute dans l'esprit d'Élie. Et un certain nombre d'événements négatifs qu'il a dû affronter de face. Il a dû en prendre la pleine responsabilité. Car Élie prend parfois le risque d'agir en se trompant. Le massacre des prophètes de Baal, puis le découragement, la dépression, la lassitude qui s'en suit. Tout cela aboutit à une seconde prière qui sera dans une dynamique de vie. Faire pleuvoir pour que la terre produise du fruit. Pour Élie, la prière était aussi un combat intérieur avec lui-même. Elle l'amène d'une prière de malédiction à une prière de bénédiction. Elle le fait passer de la mort à la vie. Pour nous, prier, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. C'est lui exprimer ce qu'il y a de plus profond en nous, en bien ou en mal, sans crainte. C'est d'entamer un chemin qui va nous éloigner de nous-mêmes et nous rapprocher de Dieu. Prier, c'est passer d'une situation bancale de souffrance à une situation restaurée, régénérée, revitalisée. Un lieu de prière pour sauver les âmes. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre dit « Amen », sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera un âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Parmi nous veut dire certaines parmi nous. Certaines parmi nous, quelle que soit notre situation aujourd'hui, certainement parmi nous, frères et sœurs, qui risquent de se perdre. Qui risquent de se perdre. Le mot original signifie errer ou se perdre. Ce mot est traduit dans Romains 1, verset 7 et aussi dans 1 Thessaloniciens 2, 3 par fausse et dans notre Pierre 3, 17 par mauvais. Dans 1 Jean 1, verset 6, il est traduit par la voie perdu, c'est-à-dire se tromper et perdre le sens de la vérité. Les versets 13 au 18 ci-dessus concernent la prière et les versets 19 et 20 sont concernés aussi les principales d'interprétation de la prière. Le processus de transformation individuelle est étroitement lié à la prière, car c'est Dieu lui-même qui fait revenir à lui les personnes. Telos, on peut voir que le pouvoir de la prière peut amener l'esprit du peuple à Dieu et détourner ses pas du chemin de la perdition pour qu'il puisse retourner à Dieu. Comment amener les chrétiens égarés dans le corps de Christ et les non-chrétiens. Je propose trois choses qu'on peut exercer. Par la parole, utiliser notre bouche pour témoigner de l'évangile de Dieu, car l'évangile doit être entendu. Parce qu'ici, nos paroles sont un outil. Nous avons tous entendu parler de l'évangile, parce que quelqu'un de nous a évangélisé. Par conséquent, ceux qui ont bénéficié de l'évangile apporteront également l'évangile à ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Nous pouvons aussi amener des amis à l'église pour écouter l'évangile. Certaines personnes ont déclaré qu'au moins 6 personnes lui ont parlé de l'évangile. Ainsi, pour les membres qui se sont égarés, c'est par le moyen de l'évangile qu'ils reviendront. Après avoir semé, nous récolterons le moment venu. Que Seigneur nous aide des frères et sœurs qui sont égarés. Le bon témoignage, utilisons notre vie pour témoigner de l'évangile de Dieu et être lumière du monde. Prêchons la parole de vie et vivre pour Christ. Ça, c'est aussi important. Prière. Ne négligeons pas la prière dans le processus d'évangélisation. Le diable va essayer de détruire notre travail d'évangélisation à tout moment. Cette action a une valeur, sauver des personnes. Cette action a une valeur, sauver des personnes. Il sauvera une âme de la mort. La valeur de l'âme est supérieure à tout ce qui existe dans ce monde. Matthieu 16, 25. La valeur de l'âme est supérieure à tout ce qui existe dans ce monde. Nous sommes engagés dans le ministère le plus précieux du monde. Il couvrira une foule de péchés. La personne qui a fait demi-tour ne vit plus dans le péché. Et, à cause de son changement, entraîne des changements dans sa famille, dans la vie de ses amis et de ses collègues. Et cela va être possible grâce à son témoignage. Voilà, nous arrivons à la fin, conclusion. Nous tous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas marcher seuls sur ce chemin céleste. L'existence de l'Église doit être un foyer où on prend soin les uns des autres. Ainsi qu'un lieu de guérison spirituelle. Parce que les chrétiens vont rencontrer beaucoup de souffrances, de morts, de pertes, de séparations, d'échecs. Paul lui-même a déclaré en 2 Corinthiens 11, 29, « Qui est faible que je ne sois faible ?» Qui est faible que je ne sois faible ? Mais l'Église ne connaît pas que la souffrance. Elle se préoccupe également du traitement. Jacques nous dit que face à ces douleurs, nous devons d'abord pratiquer la prière. Nous devons ensuite traiter le problème, soit physique, soit spirituel, et en troisième lieu, avoir recours à la médecine si nécessaire. Comme Jacques est déclaré au chapitre 1, verset 25. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui la préserverait, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Chapitre 1, verset 25. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui la préserverait, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail. Qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Question. Pensez-vous que les chrétiens peuvent vivre tout seuls? Pensez-vous que les chrétiens peuvent vivre tout seuls sans avoir besoin de la prière de l'Église? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que vous avez expérimenté l'efficacité de la prière de l'Église? Est-ce que vous avez expérimenté l'efficacité dans la prière de l'Église? Est-ce que des problèmes ont été résolus grâce à elle? Lesquels? Quand nous avons des soucis au niveau de spirituel à cause de nos souffrances, comment allons-nous les régler? Quelle expérience avons-nous faite? Prions ensemble. Oh Seigneur, face à ton nom, nous sommes devant ton trône. Nous sommes faibles. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est pour ça que, Seigneur, tu connais notre faiblesse, notre souffrance, notre erreur humaine qu'on a commis tous les jours, Seigneur. C'est pour ça que tu es là. Même tu es à ce moment-là dans ton Église. Tu es auprès de nous. Pour nous réconforter, pour nous vraiment éclairer les choses, pour qu'on puisse vraiment prier les uns pour les autres. Seigneur, quelle merveille, la famille en Christ. Nous ne sommes pas seuls. Vous avez placé des frères et sœurs auprès de nous pour nous aider, pour nous secouer. Seigneur, nous te remercions. Je prie en ton nom, Jésus-Christ. Amen.